Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast Une certaine idée de l'Europe. Nous aurons dans cet épisode bon nombre d'actualités tant du côté du Conseil de l'Europe que de l'Union européenne. Il sera question aujourd'hui du refus de la Russie de ne plus interdire la propagande gay malgré les pressions du Conseil de l'Europe, ou encore la polémique qui entoure le Conseil de l'Europe sur une campagne publicitaire. En ce qui concerne l'Union européenne, des tensions se créent pour savoir s'il faut intervenir ou non en Afghanistan. Il sera aussi question des pressions exercées par le Parlement européen sur la Commission européenne. Par ailleurs, nous parlerons aussi d'un arrêt de la CJUE qui condamne la Pologne, ou d'un arrêt de la CJUE complétant sa jurisprudence Silfit. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par les actualités du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a récemment déploré le double refus de la Russie d'abolir sa législation qui interdit la propagande gay auprès des mineurs. En effet, la Commission contre le racisme et l'intolérance, ECRI, avait en 2019 formulé des recommandations prioritaires sur ce point. Cependant, la Russie n'a jamais donné suite à ces recommandations, et vu la discrimination qu'elle mène envers les homosexuels, cela ne risque pas de changer de sitôt. Le Conseil de l'Europe déplore aussi que la Russie n'ait pas suivi les recommandations de ce même comité en rapport avec le contrôle de la police par un organisme indépendant. La Russie fait donc la sourde oreille pour améliorer la démocratie dans son pays et éviter les abus du pouvoir exécutif. Le Conseil de l'Europe fait actuellement l'objet d'une polémique assez conséquente. En effet, le Conseil de l'Europe avait lancé une campagne publicitaire pour lutter contre la discrimination en représentant des femmes à moitié découvertes et à moitié recouvertes par le voile islamique. Cette campagne a fortement été critiquée par les politiques français, notamment l'extrême droite. Le Conseil de l'Europe s'est peut-être attaqué à une question sociétale trop brûlante qui suscite de vives tensions, surtout que la question est encore plus délicate avec les femmes afghanes. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité de l'Union européenne. En parlant justement des Afghans du côté de l'Union européenne, il y a des tensions pour intervenir de manière humanitaire pour aider les populations en danger. En effet, l'Union européenne souhaiterait intervenir pour aider les populations afghanes, mais la France et le Danemark sont beaucoup plus réticents pour mener à bien cette politique. Effectivement, pour eux, cela reviendrait à reconnaître un régime peu enclin au compromis, alors que d'autres partenaires internationaux ne l'ont toujours pas reconnu. Il faudrait peut-être oublier l'aspect politique de cette mission et se concentrer sur l'aspect humanitaire, qui est beaucoup plus important. Pour ce qui est du marché intérieur européen, le conflit sur la pêche entre le Royaume-Uni et la France est toujours tendu. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a annoncé le soutien de l'UE à la France sur ce conflit, même s'il estime que les torts ne sont pas réellement partagés sur ce dossier, mais il estime que le Royaume-Uni souhaiterait mettre fin à cela et donc entamer des discussions avec la France pour aboutir à un accord. Espérons que cela se fasse dans les plus brefs délais. La CJUE, dans l'arrêt Commission contre Pologne rendu le 27 octobre 2021, a condamné la Pologne à une astreinte d'€1 million par jour car elle ne s'est pas conformée à un arrêt rendu par la Cour le 14 juillet. En effet, il était demandé à la Pologne de suspendre le fonctionnement de la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise qui avait suscité de grandes controverses. Cette réforme était notamment vue par les magistrats comme l'instauration d'un instrument de contrôle politique par le gouvernement au sein de la Cour suprême. Ce n'est pas la première fois que la Pologne est condamnée pour des réformes du système judiciaire et des atteintes à l'état de droit, et malheureusement ce ne sera sans doute pas la dernière. Dans cette même lignée, le président du Parlement européen, David Sassoli, a annoncé avoir engagé une action en justice devant la CJUE contre la Commission européenne. Il a décidé de mener cette action en justice car la Commission n'a pas mis en œuvre le règlement qui conditionnait l'octroi de fonds européens au respect de l'état de droit. Cependant, la Pologne et la Hongrie, principaux États menacés par l'application de ce règlement l'ont contesté devant la CJUE et les 27 ont convenu de ne pas l'utiliser tant que la Cour ne se sera pas prononcée sur cette légalité en fin d'année ou en début d'année prochaine. Des rebondissements sont donc à prévoir sur l'issue de l'application de ce règlement. Des tensions diplomatiques ont émergé récemment entre l'UE et la Chine. Cette tension a émergé du fait qu'une délégation du Parlement européen, menée par l'eurodéputée française Raphaël Glucksmann, s'est rendue à Taipei, la capitale de l'île de Taïwan. Petite précision pour nos chers auditeurs, l'île de Taïwan est une île contestée, qui est censée appartenir à la Chine, mais qui est en réalité indépendante et dispose de ses propres institutions politiques. La Chine considère l'île comme partie de son territoire, alors qu'en réalité elle est indépendante, et plusieurs pays comme la France l'ont reconnue comme un État à part entière. C'est pourquoi cette délégation du Parlement européen pourrait mettre un froid dans les relations entre l'UE et la Chine, mais cela pourrait favoriser les relations entre l'UE et Taïwan et éviter son isolement par la Chine. La Commission européenne a par ailleurs fait pression sur la France pour qu'elle règle les problèmes liés aux dauphins sur ses côtes. En effet, dans le golfe de Gascogne, de nombreux accidents ont lieu avec les navires des pêcheurs qui percutent les dauphins qui viendront par la suite s'échouer sur les côtes françaises. La Commission a notamment demandé à la France de fermer temporairement les zones de pêche pour limiter ces accidents. Mais la France a l'air très réticente. Ces accidents peuvent facilement réduire la population de dauphins, ce qui est très dangereux pour la faune marine. Encore faut-il un peu de volonté politique pour protéger l'environnement. Le Forum européen sur la migration qui s'est déroulé le 27 octobre a vu des propositions apparaître sur la migration en Europe. L'idée phare qui est apparue était notamment qu'il fallait mettre en place une gestion humanitaire de la migration qui ne laisserait personne de côté. Il a ainsi été souligné l'importance d'un emploi et d'une éducation inclusifs, ainsi que le rôle des communautés locales et des partenaires sociaux pour réussir l'intégration des migrants. Pour cela, la Commission a lancé un plan d'action contre le trafic de migrants, qui est en relation avec la lutte contre l'emploi illégal, qui est l'un des principaux facteurs de la migration irrégulière. Mieux intégrer les migrants réduira les discriminations et les préjugés qui existent sur eux. La Banque européenne d'investissement a annoncé avoir fait un partenariat avec LCL pour accompagner les professionnels de la santé. La volonté de ce partenariat est de développer l'activité des professions libérales de santé, notamment dans les zones de tension sur le territoire. Il est précisé que l'objectif est de se concentrer à hauteur de 20% de l'enveloppe sur les régions et territoires frappés par la désertification médicale. Ceci pourra régler de nombreux problèmes de médecins qui manquent sur le territoire et de problèmes de santé des habitants de ces régions du fait de la difficulté d'accès à un professionnel de santé. Le Fonds européen d'investissement a annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros pour aider les entreprises éthiques et sociales à surmonter la crise. Les entreprises visées, peu importe leur taille, doivent être engagées écologiquement et socialement. Ces aides existent déjà depuis 2016, mais ont été renforcées pour faire face à la crise. Ce financement est très positif car il pourrait mettre en avant des entreprises qui se soucient du bien-être social et écologique et pouvoir faire un contrepoids contre les entreprises qui ne sont pas engagées sur ces domaines. L'Agence européenne de la sécurité maritime a annoncé que l'entreprise CLS et son partenaire Take Ever ont emporté un contrat de surveillance maritime par drone. Ils auront donc pour mission de surveiller par drone les eaux européennes avec la capacité de sauvetage des personnes en péril. Les drones, en plus de pouvoir surveiller les mers sous la juridiction de l'UE, pourront secourir jusqu'à 8 personnes grâce à des canots de sauvetage dont ils seront dotés. Ceci est une première. et pourrait se révéler être un nouveau moyen pour protéger les migrants des dangers auxquels ils peuvent être soumis en mer, ou encore pour repérer de manière plus simple des embarcations illégales qui tentent d'arriver en Europe. Europol vient d'annoncer les arrestations de 150 pirates influents sur le Dark Web, qui faisaient marcher une marketplace. Cette opération, qui est baptisée Dark Unthor, a permis d'arrêter 150 pirates informatiques, mais a aussi permis aux polices nationales de saisir 234 kilos de drogue, 45 armes à feu et plus de 26,7 millions d'euros en espèces et en crypto-monnaies. Maintenant que cette marketplace a été démantelée, il faut que Europol et les polices nationales évitent que ce genre de site revoie le jour. La coopération policière semble être de plus en plus efficace, permettant des opérations de plus en plus ambitieuses qui contribuent à la protection des Européens. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, vient de nommer les trois nouveaux directeurs pour trois programmes différents, qui sont pour le premier programme la commercialisation, l'industrialisation et l'approvisionnement, pour le deuxième programme d'observation de la Terre et enfin pour le programme de la navigation. Pour le premier programme, c'est une Française, Géraldine Naja. Pour le deuxième programme, c'est une Italienne, Simonetta Celi. Et enfin, pour le dernier programme, c'est un Espagnol, Francisco Javier Benedito Ruiz. Lors de ses nominations, il a notamment été mis en avant la volonté de développer un New Space européen, qui aurait pour but d'accompagner et de financer des petites et moyennes entreprises européennes spatiales et ainsi développer le spatial privé européen. Le développement du privé est peut-être une volonté pour l'ESA de développer le spatial en dehors du secteur public du fait de son manque de budget. Cela n'empêche pas que ces financements pourront mettre en valeur des entreprises et des procédés qui pourront s'avérer révolutionnaires pour le spatial. Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2021, la CJUE, lors d'un renvoi préjudiciel, a pu préciser sa jurisprudence Silfit de 1982. Mais qu'est-ce donc la jurisprudence Silfit ? Je m'en vais de ce pas vous l'expliquer. Lors d'un litige en droit interne italien, une entreprise tente d'annuler une taxe fixée par le ministère de la Santé en vertu d'un règlement communautaire. Elle n'obtient pas gain de cause lors du premier arrêt devant la Cour suprême, qui ne saisit pas la CJCE d'une question préjudicielle, alors que d'après les traités, elle en a l'obligation dès lors que le litige touche au droit communautaire. L'entreprise décide donc de réaliser un nouveau recours en droit interne pour condamner cette interprétation du droit communautaire. Cette fois-ci, la Cour suprême italienne va saisir la CJCE à l'époque d'une question préjudicielle. Dans l'arrêt Silfit, la CJCE va poser une obligation de réaliser une question préjudicielle devant elle, sauf si trois conditions sont réunies en théorie, puisqu'en pratique les deux premières conditions sont relativement simples à mettre en œuvre, mais la troisième condition est juste impossible. La première condition, c'est que si la question n'est pas pertinente, alors la saisine n'est pas obligatoire. Deuxième condition, c'est que lorsque la Cour a déjà répondu à un renvoi qui est matériellement identique, alors la juridiction n'est pas obligée de saisir la Cour. Et la dernière condition est la théorie de l'acte clair, lorsque l'interprétation du droit de l'Union européenne ne suppose aucun doute raisonnable. Et alors, accrochez-vous, parce que la théorie de l'acte clair est tout sauf clair. En gros, cette théorie veut que le juge national vérifie les différentes versions linguistiques de l'acte, ensuite que le juge tienne compte du fait que les notions du droit de l'Union européenne n'ont pas le même sens qu'en droit national, et enfin que le juge replace dans son contexte chaque disposition. Donc, dans l'arrêt dont il est question aujourd'hui, rendu le 6 octobre 2021, la Cour réutilise cette jurisprudence tout en la précisant. En effet, la CJUE estime que la juridiction nationale, lorsqu'elle se trouve en présence de l'une des trois conditions, n'est pas tenue de saisir la Cour, quand bien même la question relative à l'interprétation du droit de l'Union serait soulevée par une partie à la procédure devant elle. En revanche, si aucune des conditions n'est remplie, Alors la juridiction nationale a l'obligation de saisir la Cour. La Cour apporte avec cet arrêt une certaine flexibilité à la jurisprudence Sylphid, qui était trop rigide et impossible à mettre en œuvre, puisqu'auparavant les trois conditions étaient cumulatives, alors qu'avec cet arrêt elles ne le sont plus. Avoir une seule des trois conditions est maintenant suffisant pour ne plus saisir la Cour d'une question préjudicielle. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs.